100.9.
Aujourd'hui, notre invitée, c'est Julie Daubier. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être venue nous voir. Est-ce que vous connaissez Julie Victoire Daubier ?
Ah bah oui, c'est une de mes ancêtres, c'est une arrière-arrière-grande-tante.
C'est vrai ?
Qui a eu le cran de passer le baccalauréat, de le passer et de réussir.
Voilà. J'ai tapé votre nom sur Internet ce matin.
Et c'est pour ça que je m'appelle comme ça, c'est qu'en fait, c'était un peu un nom oublié dans la famille, on n'en parlait pas.
Ouais.
Et puis quand ma mère est allée aux États-Unis, elle a fait des recherches dans les bibliothèques américaines qui numérisaient à l'époque beaucoup les documents internationaux, dont les français. Et elle est tombée sur des ouvrages de Julie Victoire Daubier.
Ouais.
Et du coup, l'histoire a fait ressurgir ce nom-là.
Le personnage, du coup, j'ai lu un peu sa bio. Ouais, elle a vécu entre 1824 et 1874. Et c'est la première fois, femme donc, à avoir passé le bac. Et c'est une militante des droits des femmes avant l'heure.
En fait, elle s'est emparée de pans qui étaient occupés que par les hommes, en fait, à l'époque, au XXe siècle. Les femmes n'avaient plus accès à rien, en fait. Hein. Suite à la Révolution française, on a interdit aux femmes même de se réunir. Quand on pense que les Afghanes, là, ont l'interdiction de se parler, on a fait la même chose aux femmes juste après la Révolution française. Donc, elle était dans un siècle où les femmes restaient à la maison, s'occupaient des enfants. Et puis, elles n'avaient plus du tout accès au champ public ni politique.
Ouais.
Donc, elle s'en est de nouveau emparée et elle a passé le baccalauréat, mais elle aussi la licence en lettres. Et elle allait publier, elle allait terminer son mémoire quand elle est décédée.
Okay.
Voilà. Et grâce notamment à son frère qui lui avait appris le latin et le grec, parce que les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement, en fait.
Ouais.
Elles ne pouvaient pas s'instruire. Voilà.
C'est pas forcément le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Et en même temps, je crois qu'il y a un petit lien quand même. On va parler d'un spectacle qui s'appelle La Carte et que vous présenterez le 15 janvier.
À l'Auditorium.
À l'Auditorium, ok.
Je suis trop contente de pouvoir jouer au moins une date. Donc le 15 janvier à 20h, c'est un spectacle qui va être gratuit parce que c'est un spectacle en cours de création et de rodage. Et il y a un lien effectivement avec les droits des femmes parce que j'ai écrit ce spectacle. Ça se passe au XVIIIe siècle et j'ai fouillé dans l'histoire à la fois de la création de la carte de Cassini, qui est la première carte, précise des distances entre les différentes villes et villages de France, et puis où sont nommés, notés tous les noms des villages, mais il y a également toute l'histoire, en fait, des femmes de l'époque, comment elles vivaient. C'était, en fait, j'ai gratté, j'ai tiré le fil, et en fait, le fil est infini.
Ouais.
Et c'est incroyable, comme c'est le siècle juste avant que ça se referme, le 18e siècle, c'était encore assez libre pour les femmes, elles pouvaient faire le métier qu'elles voulaient, ça s'est refermé vraiment le siècle d'après, le siècle de Julie Victoire Daubier.
Ouais.
Et le siècle, justement, juste avant la Révolution française, on découvre la nature, les techniques, le plaisir, c'est un siècle très libre. Donc j'ai fouillé, j'ai appris plein de choses sur la contraception, sur les métiers qu'elle faisait. Et je me suis dit, mais il faut trop l'intégrer dans le spectacle. Avec modestie, j'y vais tranquillement, c'est quand même mon premier spectacle théâtral. Je me suis formée à Lyon avec Brigitte Mercier à l'écriture de spectacles de théâtre, mais je vois bien que j'en suis qu'au balbutiement, c'est hyper complexe.
Ah ouais.
De pouvoir tirer les fils narratifs, que ce soit intéressant pour le spectateur, que... Voilà, j'aime bien les défis. Donc.
Vous avez dit que vous avez gratté pour trouver des infos. On gratte où pour se renseigner sur le XVIIe siècle et les mœurs très personnelles. Vous avez parlé d'avortement. Je ne sais pas si c'est écrit dans les archives départementales de je ne sais pas quoi.
Alors, pour le coup, j'ai parlé de contraception.
De contraception.
Et ça se passe au XVIIIe siècle. Mais
oui,
peu
pardon.
Importe. Il y a des puits d'informations. Hein. Internet est déjà une mine d'informations incroyable. Et puis après, on a la Bibliothèque nationale de France, qui est accessible à Paris, la Bibliothèque François Mitterrand, où là, il y a énormément de documents auxquels on peut accéder, fouiller, etc. Donc j'ai passé plusieurs journées là-haut à lire, à regarder. Et puis j'avais déjà une petite culture de l'histoire des femmes, de par ma famille, mais aussi parce que j'ai rencontré... tout le travail de Michel Perrault, qui est une historienne qui s'est penchée depuis les années 70 sur l'histoire des femmes. En fait, elle s'est rendue compte qu'on n'avait jamais vraiment étudié l'histoire des femmes et qu'on s'était beaucoup penché sur celui des hommes, sur celle des hommes. Voilà, donc elle a écrit plein de choses à ce sujet et j'ai fouillé dans la documentation déjà que j'avais à la maison.
Ouais. D'accord. Il y avait un travail sur les femmes des cavernes, moi, qui m'avait beaucoup intéressé. On avait souvent parlé des hommes des cavernes. J'ai l'impression que c'est la même logique, c'est de se dire...
Et c'est surtout au siècle, justement, où ça se referme, où les historiens commencent à s'intéresser à l'histoire de la préhistoire. Et évidemment, ils vont calquer leur mode de vie sur le mode de vie de la préhistoire. Enfin, c'est l'inverse, ils vont se dire qu'à la préhistoire, c'était pareil qu'au 19e siècle. Et en fait, fait, on s'est rendu compte en faisant des recherches que les femmes chassaient. On s'est rendu compte que, par exemple, les peintures rupestres qu'on a trouvées aux grottes Chauvet, c'était des mains de femmes. Ouais. Enfin, voilà. Et c'est vrai que nous, on a baigné, je sais pas toi, mais dans des livres d'histoire qui nous montrent des hommes des cavernes, les hommes partent à la chasse, les femmes restent au foyer. Mais elles étaient en mode survie tout le temps. Je pense que tout le monde chassait, tout le monde cueillait des... Parce qu'il n'y avait pas le choix, quoi.
En fait, on a mis des stéréotypes sur notre propre histoire.
Et qui même jusqu'à maintenant, enfin, quand on pense que la première échographie du clitoris, elle date d'à peine 10 ans, c'est de 2010.
Ouais.
Voilà, enfin, moi, il y a plein de choses dans mon corps, je n'ai aucune documentation dessus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Dans le spectacle, je parle des femmes fontaines, on ne sait pas encore ce que c'est exactement. Enfin, c'est juste dingue.
C'est vrai. Le spectacle s'appelle La Carte et il a été fait dans un module, un programme qui s'appelle Carte Blanche. On peut parler de ce dispositif ?
Oui, moi je suis en cycle 3 au conservatoire de Villefranche, parce que je suis passionnée aussi d'art lyrique. Et ils ont plein de modules super, ils ont de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, ils ont un pôle uniquement dédié à la création. Enfin, ils sont hyper inventifs dans leur manière, dans leur pédagogie. Et ils ont un module en fait qui est obligatoire pour les cycles 3, qui s'appelle Carte Blanche, où ils invitent les élèves à créer un spectacle. Voilà, donc c'est libre en fait, on fait ce qu'on veut. Et moi j'en ai eu vent il y a 3 ans, je me suis mis à écrire le texte. Le texte est normalement plus ou moins arrêté maintenant, même s'il bouge un peu de temps en temps. Et maintenant j'ai un soutien pour la création, j'ai l'équipe technique justement de l'auditorium de Villefranche qui m'aide à faire les lumières, le son. Les professeurs me suivent toutes les semaines, voire tous les 15 jours, pour m'aider dans la mise en scène. J'ai les locaux à disposition. C'est super, quoi. Si vous avez des enfants ou même vous-même, vous avez envie de créer, mais allez au conservatoire de Villefranche, de l'agglomération Beaujolais-Saône. Souvent, on dit, oh là là, conservatoire, c'est un lieu élitiste. Mais pas du tout. Les conservatoires ont été créés juste après la Révolution française pour permettre l'accès à la musique d'élite pour tout le monde, en fait. C'est vraiment un lieu pour tous.
Ouais. Et donc, cette création, j'ai entendu, ça fait 3 ans que vous travaillez dessus. C'est du théâtre, c'est de l'art lyrique. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène ? Un seul en scène, déjà, je crois.
Ouais, c'est un seul en scène. Un seul en scène pour que ça soit facile à tourner aussi. On est quand même dans une crise au niveau culturel. Donc, les spectacles avec beaucoup de musiciens, beaucoup de personnes sur scène, c'est très, très difficile à faire tourner. Et moi, j'ai envie de le jouer beaucoup, beaucoup. Donc, je suis seule en scène. L'idée, c'était d'être à un siècle où on chantait de l'opéra. Donc, c'est vrai que le 18e, c'est l'époque de Mozart. Bach nous a donné pas mal de choses aussi. Et donc, résultat, moi, j'avais envie de chanter de l'opéra. Je me suis dit, je vais créer un spectacle où on est à l'époque de l'opéra. Et au final, vous allez surtout voir un seul en scène où moi, je joue plein de personnages différents. Il y a un personnage masculin, plein de personnages féminins. Puis je change de casquette. Il y a plein de chapeaux différents. Comme ça, normalement, vous allez essayer de suivre l'intrigue. Faudra être indulgent. Et voilà. Et donc, c'est beaucoup du théâtre avec des bulles sonores où je vais chanter. J'ai créé plein de bulles aussi avec du bruitage pour qu'on ait l'impression qu'on est au bord d'un lavoir, qu'on traverse une forêt, qu'on est au bord d'un ruisseau. Parce que l'idée, en fait, je me suis rendu compte en découvrant cette carte de Cassini là, qui a été écrite à cette époque-là, qu'il y a beaucoup de noms de lieux qui sont liés à l'eau.
D'accord.
Villefranche-sur-Saône, c'est tout bête, mais on a beaucoup de noms liés aux fontaines, liés à l'eau. Et c'est normal, puisque l'eau était vitale.
Ouais.
Voilà, donc c'était l'idée aussi de...
C'était peut-être une façon d'indiquer un endroit où il y a de l'eau, une source d'eau quand on...
Voilà, c'était le côté pratique, tout à fait. Oui, non, c'est tout à fait ça, fonction, utilité, spécificité. Ouais. Et donc, voilà, j'avais envie de parler du fait qu'il y avait de l'eau sur la carte, parce qu'il y avait de l'eau sur le territoire,
ouais.
Et parler aussi de tous les fluides qu'on a à l'intérieur du corps.
Je comprends mieux l'affiche, moi, qui me faisait penser à un pirate et à une carte au trésor. On voit clairement, il est sous l'eau, il est dans la mer, le personnage sur l'affiche. Et en lisant le scénario, je me suis rendu compte qu'on était dans le Beaujolais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends mieux donc, ouais, l'importance de l'eau tout au long
Voilà.
de la pièce. Et ce personnage, alors, Léon Noël de Beauregard.
Oui, parce que c'est un noble, c'est un ingénieur.
Ouais.
Il part de Paris, il est très sec, très hautain. Et plus il va aller, en fait, sur le terrain, il va rencontrer des femmes qui vont lui ouvrir les portes de la vie. Et il va devenir beaucoup plus souple, plus humide, d'une certaine manière.
Ok, et il a vraiment existé ou c'est un personnage inventé pour...
Alors, j'ai fait des recherches, j'ai vu la liste des noms des ingénieurs, mais j'ai pas pris évidemment un vrai nom, j'ai inventé.
Ok.
C'est ça qui est génial, au théâtre, on peut inventer ce qu'on veut.
Ouais.
Mais tout ce qui est historique dans la pièce, c'est vrai, enfin vraiment la réalité de la condition des femmes, comment la carte de Cassine a été créée, et puis effectivement la réalité sociale, c'est-à-dire qu'il arrive, il est très hautain, et c'est vrai qu'à l'époque, les nobles... se croyait au-dessus de tous les autres.
Ouais. Et du coup, l'autre thématique peut-être de la pièce, c'est la cartographie, tout simplement, parce qu'il y a la condition des femmes au XVIIIe siècle, mais la cartographie, elle a aussi son importance.
Ah ouais, j'ai sauté à bras le corps dans cette discipline. C'est absolument incroyable, les cartes. Ouais. On y trouve tellement d'indices, de repères historiques. La géographie, c'est la base de la liberté. Mmh. Savoir se repérer dans le temps, dans l'espace, c'est hyper important. Ça permet de savoir qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va. C'est comprendre le passé, envisager le futur. Là, je vous cite carrément des mots de la pièce. Mais c'était chouette aussi de voir un personnage qui commence la carte... on va dire en 1740, et puis il va la finir vraiment juste au lendemain de la Révolution française.
Okay.
Donc au début, il travaille pour le roi, qui veut des cartes parce qu'il a besoin de savoir combien il y a de bois sur son territoire pour pouvoir faire des bateaux et se battre contre les Anglais. Et puis en fait, à la fin, Léon Noël de Beauregard, il se rend compte que la carte va lui servir tout simplement à savoir qui il est, d'où il vient. C'est vraiment la base de la liberté, je dirais,
ouais.
La carte.
Ouais. Ouais. Et oui, à l'heure du GPS, aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte du travail que ça doit être, de la technique de cartographie. En plus, moi, je pense que ça doit être passionnant.
Vous apprendrez comment on fait pour mesurer un territoire,
ouais.
Comment on fait pour nommer un territoire. À l'époque, les ingénieurs justement de l'époque allaient de village en village en demandant « Mais comment s'appelle ton village ?»
Ouais.
« Ah ok, tu sais pas, on pourrait l'appeler comme ça. » Enfin, il y a des noms qui ont été inventés à cette occasion-là. Il y a eu la christianisation qui est passée par là. Il y a beaucoup de lieux qui ont été renommés à un moment donné. Souvent, les noms des propriétaires, ils arrivaient, pouf, ils changeaient le nom du village.
Okay.
C'était souvent ceux qui gagnaient la guerre.
Ouais.
On a par exemple l'exemple de Brive-la-Gaillarde. C'est des gens qui habitaient dans une ville où ils sont vachement défendus. Et ils ont résisté à l'ennemi, donc ils ont appelé leur ville Brive-la-Gaillarde.
Ouais.
Villefranche, ça s'appelle Villefranche parce que c'est une ville affranchie. On voulait contrer en fait le duché. Le clergé en fait de Lyon,
ouais.
Donc on a dit aux gens si vous allez venir habiter ici, vous aurez moins d'impôts, vous pourrez faire les lois que vous voulez, notamment une loi où vous pourrez battre vos femmes jusqu'au sang. C'est quand même indiqué dans le texte, l'histoire de Villefranche-sur-Saône.
Dans la création de Villefranche.
Ouais.
Okay.
Et donc c'est pour ça que Villefranche s'appelle Villefranche parce que c'est une ville affranchie des lois.
Okay.
Ils pouvaient faire les lois eux-mêmes.
Okay.
Et on a Villefranche de Rouergue, Villefranche sur mer, donc il y a d'autres Villefranches, d'autres exemples.
C'est enthousiasmant l'idée d'être affranchi, mais quand on voit ce qu'ils font avec les lois, tout de suite, ça
refroidit. Oui, c'est pas très réjouissant. Mais moi, j'adore mon GPS parce qu'il me parle. Et quand il arrive à Villefranche sur Saône, il dit « Bienvenue à Villefranche-sur-Saône. »
Oui, c'est vrai.
On est en train de se faire modifier par la machine, je trouve.
Oui, peut-être que nos petits-enfants diront Villefranche-sur-Saône. et à l'époque, on était dans le Beaujolais, d'ailleurs.
Et oui, tout à fait, Beaujolais. Lima s'appelait Liman.
Ouais.
Enfin, c'est marrant de voir sur la carte comment les noms ont évolué.
Mmh.
Soyez curieux.
Et donc la carte, on pourra la voir sur scène. Ce sera le 15 janvier à 20h à l'Auditorium de Villefranche.
C'est gratuit, venez découvrir ce spectacle. Soutenez-moi.
Une création seule en scène. Y a une autre occasion au mois d'avril dans le cadre du Festival Universel à la salle du Prioré à Salles-Arbuissonnas.
Oui, parce qu'on parle de la condition des femmes, et c'est vrai que c'est la directrice du musée Claude Bernard, qui est aussi la directrice du musée du prieuré de Salaire-Buissonnat, a vraiment à cœur de montrer comment les femmes vivaient à l'époque, parce qu'il y avait une chanoinesse qui habitait au prieuré. Et pour le coup, là, le spectacle sera plutôt en déambulation dans le musée et dans le cloître.
Ok.
Oh là là. Donc encore un autre défi.
Un nouveau défi, ouais, le spectacle vient à peine de naître et il sera déjà adapté au lieu. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, Julie.
Ouais, super, merci beaucoup pour l'invitation. C'est à chaque fois un grand plaisir.
Bon, à très bientôt, merci.
Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr.